Je reviens sur le début de l'épître que nous avons entendu tout à l'heure. Celui qui nous confirme avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. C'est lui qui nous a marqués d'un sceau et nous a donné d'avoir les arts et non pas les arbres de l'esprit dans nos cœurs. Il y a là tout le résumé de toute notre foi depuis la création jusqu'à l'Apocalypse. Enfin, jusqu'à au-delà de l'Apocalypse. Je vais essayer de vous le monnayer, mais pas trop, parce que sans quoi, s'il faut reprendre autant de siècles, en quelques minutes, vous risquez d'avoir envie de dormir. D'abord, la première chose qui peut nous frapper, c'est qu'il est question de la Sainte Trinité. Celui qui nous confirme, c'est Dieu. Donc déjà, on parle du Père. Rien dire que quand on parle de Dieu, on ne sait jamais si c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le langage de Saint Paul, c'est le Père. Mais dans la Sainte Trinité, aucune des personnes de la Sainte Trinité n'opère quoi que ce soit sans que les autres y participent. C'est toujours une œuvre commune. Donc, il est sûr que c'est déjà celui qui nous confirme, c'est la Sainte Trinité, mais ça s'adresse en premier lieu ou particulièrement à celui qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire du Père. Celui qui nous confirme avec vous dans le Christ. Voilà la mention, non seulement la mention, mais le rôle précisé de la deuxième personne de la Trinité incarnée, le Christ incarné, qui nous unit, qui est notre corps, qui est notre vie, auquel nous sommes associés par Dieu. Dieu nous a confirmé en lui. Il nous confirme pour être un avec lui. Et il nous a donné l'onction. L'onction, elle est double, si je peux dire. C'est l'onction du baptême qui, en tant que sacrement, ou par l'intervention de l'Esprit Saint dans ce sacrement du baptême, nous associe à la vie divine. Donc c'est le Père qui accomplit cela, qui accomplit cette unité entre les personnes en Christ et cette communion des personnes dans le corps du Christ. Je vous en parle souvent, c'est une de mes marottes. C'est l'âge certainement qui me fait vous rappeler ça souvent, mais il me semble que c'est fondamental. Mais Saint Paul ajoute et que nous a marqué d'un sceau. Le sceau, c'est le sceau du nom du Saint-Esprit, c'est-à-dire la marque imprimée en nous qui sommes comme de la pâte molle, comme de la cire à cacheter, ou comme du sable mouillé. Et nous sommes marqués de ce sceau au moment, juste après le baptême, qui vient confirmer justement, qui vient donner vie à ce que nous avons reçu précédemment par le baptême. Et le sceau en question, entendez un sceau comme un moule, si vous voulez, comme un moule. C'est ce que c'est qu'un moule pour faire les gâteaux ou un moule pour faire les pâtés de sable sur la plage. Je me rappelle plus trop quelle forme ils ont, parce que ça fait un peu longtemps que je n'en ai pas fait, mais je pense qu'ils ont quelquefois la forme d'un canard, d'une tortue, d'un poisson, ou je ne sais quoi. J'aimerais mieux le poisson, ictus, ça nous dit quelque chose. Vraiment. Et quand on remplit, quand on imprime la marque du seau sur le sable, le sable prend la même forme inversée, je puis dire, mais la forme en négatif, en positif, je ne sais pas, la forme du moulin. Eh bien, Dieu nous a marqué d'un seau d'une manière semblable, c'est-à-dire quand en recevant le sceau du don du Saint-Esprit par la crispation qui suit le baptême, nous sommes rendus conformes, nous sommes moulés, pour reprendre ce terme, cette image-là, nous sommes moulés à la fois au corps du Christ, mais comme le corps du Christ lui-même est à la fois est aussi uni au Père et à l'Esprit Saint, par la force du Saint-Esprit, le moule, nous devenons conformes à la Sainte Trinité. Nous retrouvons l'image et la ressemblance avec Dieu. Et Saint Paul continue, et il nous a donné d'avoir les arts de l'esprit dans nos cœurs. Parce que cette réalité surnaturelle d'une mise en conformité de notre nature avec celle de Dieu par la réception des sacrements nous fait connaître par avance la condition divine. Mais tant que nous sommes encore sur terre, tant que nous vivons encore de cette nature malade, déchue, qui est la nôtre pendant le laps de temps qui nous est donné de vivre sur la terre, ce ne sont encore que des prémices, que des arts, un avant-goût, si je puis dire, un avant-goût réel de la vie éternelle qui sera la nôtre après, mais qui n'est pas simplement une espérance, qui est une expérience. Les arts de l'esprit sont pas seulement une espérance qu'un jour nous serons conformes à la divinité, conformés à la divinité, mais c'est que aujourd'hui même, notre expérience, c'est celle d'être divinisé. En partie simplement, en prémisse simplement des arts, c'est un avant-goût, dont la plénitude ne viendra qu'à la fin des temps, après notre mort. Mais pour l'instant, ces arts-là, art, A-2-R-H-E-S, n'est-ce pas, pas l'art des artistes, hein, mais art des prémices, sont véritablement une expérience du royaume des cieux. Et c'est cela qui est le mystère. Mystère, pas au sens de choses incompréhensibles, mais qui est mystère au sens de ce qui nous fait participer à une autre dimension de la vie, la dimension spirituelle ou éternelle, si vous voulez, la dimension divine. Et ces arts-là, comment dire, sont liés à la foi que nous a montré le Christ, qui est la sienne, que nous ont transmis les apôtres et les pères de l'Église, et qui se vit depuis 2000 ans fondamentalement et en plénitude dans l'Église orthodoxe, et qui se perpétue de génération en génération. Cette mise en conformité, cette ressemblance avec le moule dont nous sommes imprégnés, qui nous donne véritablement notre forme éternelle, nous a été donnée par l'onction dont parle saint Paul, qui par le mot même fait allusion aux onctions que recevaient dans l'Ancien Testament déjà les rois et les prophètes, qui étaient oints d'huile ruisselante qu'on mettait dans une corne de taureau et que l'on versait sur la tête du récipiendaire et qui coulait sur son vêtement choses, événements, rappels, symboles, rappelés à chaque liturgie, par exemple pour les prêtres, lorsqu'ils se revêtent de l'épitrachylion, de l'étole, ce bandeau d'étoffe qui pend ce qu'on peut mettre sur le cou et qui pend des deux côtés de la poitrine et du corps, qui représente le ruissellement de l'huile de consécration des prêtres et des rois. Mais cette onction là elle n'est pas réservée seulement aux prêtres sacerdotaux, si je puis l'appeler comme ça, aux prêtres ministériels, mais c'est une onction que tout orthodoxe reçoit avec le baptême et la chrismation. C'est ainsi qu'étant conforme au Christ, conformé au Christ, chaque chrétien, chaque orthodoxe est à la fois prêtre, roi et prophète. Il a été consacré par cette onction. Chaque chrétien est institué roi, prêtre et prophète. Pourquoi roi ? Parce que, ayant reçu cette onction, il devient un avec le Christ et avec les autres qui sont le Christ. Mais le Christ n'est pas un individu. Le Christ est une personne auquel des milliards de personnes sont unies. Et le Christ étant le roi de l'univers, chaque chrétien en lui devient aussi roi de l'univers. Donc nous sommes tous des rois. Roi, prêtre et prophète. Pourquoi prêtre ? Parce que par notre vocation, parce que nous sommes un avec le Christ, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, nous sommes toutes orthodoxes, tout chrétiens, et par nature, par grâce, devenu un prêtre, non pas un prêtre qui monte à l'autel pour célébrer la liturgie à laquelle vous avez participé tout à l'heure, mais pour consacrer, comme fait tout prêtre, le monde entier à Dieu, en sacrifiant véritablement, d'où son ascèse, en notamment, mais pas exclusivement, en sacrifiant le monde, en consacrant le monde, pour mettre ce monde en conformité justement au dessein de Dieu dans la création. Tous vous êtes des prêtres, tous vous êtes puisque vous êtes avec le Christ et en Christ, vous êtes appelés à consacrer le monde et à être revêtu d'un sacerdoce, c'est-à-dire d'être médiant, d'être des échelles, d'être des traits d'union, des liens entre le monde terrestre, entre les hommes, j'allais dire les hommes d'ici-bas, que nous sommes tous, mais avec le royaume, avec ceux qui vivent dans le royaume des cieux, c'est-à-dire en premier lieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les anges, la Mère de Dieu et tous les saints qui ont déjà été incorporés et qui ont accédé au royaume des cieux. Et le rôle de tout prêtre, c'est-à-dire de tout homme baptisé et chrismé, fait ce lien, cette échelle mystique, cette échelle invisible mais réelle, palpable, expérimentable, entre le ciel et la terre. D'où la nécessité de prier les uns pour les autres, de prier pour le monde, de prier pour l'univers entier. Et prier, ça veut dire non pas demander que tel astéroïde ne tombe pas sur le coin de la figure, ou que les pluies arrivent au bon moment, pas pour jamais, mais pour que le monde entier, l'univers entier, accomplisse sa vocation de conduire l'homme, d'être la nourriture spirituelle pour les hommes. Et vous comprenez que si nous n'accomplissons pas notre sacerdoce, le monde, je veux dire le cosmos, ne peut pas bien tourner. Pour que le monde tourne bien, il faut que des prêtres consacrent ce monde. Et c'est ça la vocation, c'est ça un aspect des vocations, la vocation chrétienne. Et correspondant au troisième point que je vais évoquer maintenant, ce rôle de consécration des prêtres, c'est-à-dire de vous tous, de nous tous, fait de nous des prophètes, c'est-à-dire fait de nous d'une manière expérimentale, mais pas toujours consciente et pas toujours réfléchie ou analysée cérébralement, comme je fais un petit peu pour vous aujourd'hui, pour essayer de cerner un petit peu plus la grandeur de la vocation que Dieu nous confie. Cette vocation qui nous est donnée fait de nous des prophètes, c'est-à-dire que d'une manière très concrète, à travers les sacrements, à travers la prière, la vraie prière qui est une liturgie, la vraie prière qui est une expérimentation ascétique souvent de la communion avec Dieu et avec tous les hommes, notre ascèse, notre jeûne, notre veille indispensable, comme saint Paul le dira quelques versets plus loin dans l'épître que nous avons entendu ce matin, mais sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui. Tout cela fait de nous des prophètes, c'est-à-dire nous fait à la fois voir et à la fois expérimenter un monde qui n'est pas le monde déchu que nous connaissons ici-bas. C'est une expérimentation du royaume céleste, du royaume de Dieu. C'est une expérimentation comme si nous sommes attentifs, comme peut l'être l'expérience liturgique. La liturgie n'est pas autre chose que une ouverture sur le monde céleste, sur le monde divin, une fenêtre ouverte qui nous permet de voir avec des arts, en prémisse, qui nous permet de voir une autre réalité que la réalité de ce monde déchu. Nous pouvons voir la liturgie et en étant prophète tout au long de notre vie, nous pouvons voir le ciel ouvert et la terre transfigurée. Nous voyons le ciel ouvert car pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas seulement des notions, ne sont pas simplement une espérance, mais c'est une expérience de vie. Chacun à sa manière. On ne voit pas le Père comme on voit le Président de la République, heureusement. On ne voit pas l'Esprit Saint comme on peut voir les rayons du soleil qui nous illuminent. Et pourtant, l'Esprit Saint nous illumine. Mais cette prophétie, cette vertu, on ne sait pas une vertu, cette capacité de vie prophétique qui est la nôtre, nous permet justement d'ouvrir peu à peu, par l'onction qui nous a été donnée, les yeux spirituels qui nous ont été accordés par le baptême et qui, peu à peu, au long de notre vie, à travers toute notre assaise et la prière et la communion dans l'Église, nous permet d'apercevoir avec un autre sens, un sens, les sens spirituels, la réalité. Voilà comment nous sommes un peuple de rois, de prêtres et de prophètes. Et après, le sacerdoce ministériel, le sacerdoce des prêtres, comme le père André ou moi-même, sont accessoires, si je puis dire. Ce sont des ministères extérieurs qui ne font que pour une communauté donnée, qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire le rassemblement des hommes dans une foi et dans une même œuvre, soit l'Église tout entière, soit l'Église locale comme celle que vous représentez aux 50 que nous sommes ici. Cette communauté-là, ou ces communautés-là, sont l'expression locale et historique, c'est-à-dire aujourd'hui, mais dépassant le temps, parce que c'était celle d'hier et ce sera aussi celle de demain. C'est la mise en application, la révélation de ce mystère d'union de Dieu et des hommes entre tous. Voilà pourquoi il est tellement important de développer en premier lieu, de développer le sens de la communion les uns avec les autres. C'est-à-dire non pas seulement en priant les uns pour les autres, et pour ceux, étant donné que nous sommes des prêtres qui devons consacrer le monde à Dieu, nous devons lui consacrer ceux que nous connaissons, ceux que nous aimons, que nous sommes censés aimer, ceux qui sont notre prochain. Et chacun à sa manière. Voilà la raison pour laquelle à la liturgie, les prêtres mettent sur le discours, c'est-à-dire sur la patène, mettent des parcelles de prosphore, et à chaque fois en y ajoutant le nom, en l'écrivant évidemment, en prononçant le nom de ceux pour lesquels on veut prier, de manière à ce que tout le monde soit rassemblé comme cela autour de l'agneau, c'est-à-dire autour du Christ. Mais non seulement par ce type de consécration, mais surtout par notre amour les uns pour les autres. Voilà la raison pour laquelle il est tellement important de se supporter mutuellement tel que l'on est, avec nos défauts. Tant qu'on est des hommes et qu'on ne sera pas encore dans le royaume des cieux, on aura forcément des défauts qui nécessiteront la patience des autres, le pardon des autres. Justement, d'où l'importance de se pardonner mutuellement, l'importance de créer l'harmonie entre nous, qui n'est pas toujours accomplie. Ce sont encore des arts, des prémices, mais nous devons tendre avec toute notre force, avec la force de notre martyr volontaire, puisque nous sommes des prêtres avec le Christ. Le Christ non seulement a offert le monde, mais il s'est immolé lui-même pour le monde. Il est devenu victime tout en étant sacrificateur. Et nous-mêmes, nous devons être sacrificateurs de notre propre vie et victimes volontaires de notre immolé, crucifié par nous-mêmes. Et c'est ça notre assaise. C'est la raison pour laquelle il nous est non seulement recommandé, mais la raison pour laquelle il est indispensable d'aimer l'autre plus que soi-même, de faire la volonté de l'autre et non pas soi-même. La raison pour laquelle il est important de se pardonner, de rendre les autres heureux, pas simplement par philanthropie, parce que c'est justice ce serait pas normal que l'un ait et que l'autre n'ait pas. Non, mais par don de soi-même pour la préférence de l'autre. Ceci est un idéal pas toujours facile à accomplir, et tant que nous sommes pécheurs et égoïstes, il y aura des ruptures, des cassures dans cet idéal-là, mais c'est quand même l'idéal indispensable. Saint Jean, dit que Dieu, dans son épître, Dieu est amour et Dieu est lumière. Si Dieu est amour, et si nous sommes effectivement conformés au Christ, comme le dit saint Paul dans cet épître, comment ne pas être amour avec le Christ, donc avec Dieu? Si nous sommes à l'image de Dieu, alors que l'essence de la vie divine, c'est cet amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un amour de don total et d'union totale, de communion totale, comment, si nous sommes à leur image, ne tendrions-nous pas aussi, avec la force de l'Esprit Saint, parce que ça ne nous est pas possible à nous tout seuls, mais comment on pourrait faire l'économie de cette consécration, de cet abandon de soi pour l'amour de l'autre, pour le sacrifice à l'autre. Voilà ce que m'inspire cette phrase de saint Paul. Elle est à retenir par cœur. Mais je n'y arriverai pas, moi, je sais, mais essayez de le faire. En tout cas, faut en garder l'esprit. C'est par saint Paul nous révèle qui est Dieu, et qui, dans la vie divine, qui sont le Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est celui qui a l'initiative. Le Fils, c'est celui en qui la volonté du Père se manifeste. Et l'Esprit, c'est la force, le dynamisme personnel. C'est pas une force anonyme, c'est une personne, mais donc libre, mais qui nous donne la force et la possibilité d'accéder à ce mystère. Donc à nous aussi, nous devons être aussi Père, Fils et Saint-Esprit, unis au Père, Fils et Saint-Esprit, donner, générer le monde pour que le monde devienne un monde divin, en étant nous-mêmes des Christ, ou étant même des membres du Christ plus exactement, et en recevant l'Esprit et en devenant nous-mêmes Esprit à travers l'Esprit Saint, de manière à ce que cet Esprit Saint souffle dans le monde, et il nous revient aussi de souffler dans ce monde. À lui, Père, Fils et Esprit, soit la gloire, l'honneur et l'adoration dans les siècles des siècles.